l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres, les conditions de vie des déplacés internes dans la zone des santé de Nundu, en territoire de Fizi, sont déplorables, selon la division des actions humanitaires à travers son antenne du secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi. Plus de 6500 familles déplacées y vivent en provenance de la ville d'Uvira et des villages comme Kabimba, Luvungi et Sangé. Le taux global d'exécution de l'accord de Washington est évalué à 23,3% au mois de janvier 2026, à 7 mois après sa signature. C'est ce que fait savoir le baromètre des accords de paix en Afrique, qui recommande aux États-Unis d'exercer une pression sur les parties et au Qatar d'encourager la relance du processus de Doha. Ce dernier a repris depuis dimanche dernier. Et la route nationale numéro 2, tronçon compris entre Bukavu et Goma, risque d'être coupée à partir du groupement de Buziminova en territoire de Calais. Sur place, le pont Buganga est menacé d'effondrement suite aux récentes pluies. Les acteurs sociaux plaident pour sa réhabilitation. Voilà donc tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Commençons par cette information. Le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ont signé lundi à Doha le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, a appris Radio Mandeléo de la médiation qatarienne. La signature est intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties organisée par le Qatar dans le cadre de ses efforts de médiation pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Selon les participants, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu ainsi que de l'accord de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025 et leur détermination à en appliquer de bonne foi l'ensemble des dispositions afin de soutenir le processus de paix. La réunion a rassemblé les membres du mécanisme en présence des États-Unis et de l'Union africaine en qualité d'observateur, de la République du Togo médiateur désigné par l'Union africaine, ainsi que de la MONUSCO et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et Yirgel. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation et les perspectives liées aux défis actuels. Les membres ont souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations au soutien du processus de paix. Ils ont également examiné les plans de la MONUSCO et de la CIRGEL pour la mise en œuvre du mécanisme et ont réaffirmé leur engagement à soutenir et faciliter leurs travaux afin d'en assurer le succès. La MONUSCO a été chargée de dépêcher dans les prochains jours une première mission dans la ville d'Uvira pour surveiller le cessez-le-feu, tandis que les canaux de communication nécessaires ont été établis pour faciliter son action conformément au mécanisme. À l'issue des discussions, les membres se sont accordés sur les prochaines étapes visant à renforcer l'efficacité du mécanisme et à assurer la tenue régulière des réunions dans ce cadre, conclut le Qatar via un communiqué.
Plus de 6500 familles déplacées internes vivent actuellement dans des conditions difficiles dans plusieurs localités de la zone des santé de Nundu, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Cette situation est consécutive au dernier combat à Uvira et ses environs entre les forces armées de la RDC et l'AFC M23. Ces chiffres sont contenus dans un rapport de la division des actions humanitaires et solidarité nationale en province à travers son antenne du secteur de Tanganyika dans le territoire de Fizi, également consulté par Radio Mandeléo lundi 2 février 2026. Son contenu avec Hélène Boudjiriri.
Ces familles venues de plusieurs coins comme la ville d'Uvira et les villages comme Kabimba, Katongo, Kigongo, Luvungi et Sangé vivent dans des conditions précaires et présentent d'importants besoins humanitaires en nourriture, soins de santé, eau potable, abri et protection. À en croire ces rapports, plusieurs aires de santé ont accueilli ces familles fuyant les affrontements armés. Les zones les plus touchées sont entre autres Mboko, Lusinda, Kenya, Kabokedo, Kabondozi et Nundu. Au total, la division des actions humanitaire dénombre 25 049 ménages autochtones. Restés sur place, 6 560 ménages déplacés internes et 10 239 ménages retournés dans différentes localités, peut-on lire dans ces rapports. Certaines localités comme Lamba, Makobola 2 et Munene ont été victimes des pillages selon les observations consignées dans ces rapports. Par ailleurs, les centres de santé d'Abeka a été visité par des hommes en tenue militaire, tandis que des médicaments ont été détournés dans l'aire de santé de Louéba. Pour Kaliata Antoine, chef de service des actions humanitaires dans le secteur de Tanganyika, ces personnes déplacées n'ont reçu aucune assistance humanitaire alors qu'elles présentent d'importants besoins. Il ajoute que la situation sanitaire est beaucoup plus alarmante, particulièrement pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Face à cette situation, celui-ci plaide auprès des partenaires humanitaires, ONG et autorités compétentes pour une assistance rapide en faveur des populations déplacées de la zone de santé des Nundu dans les territoires de Fizi pour sauver des vies.
Et le retour des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFSAM 23, relancé le dimanche 1er février dernier à Doha au Qatar, fait planer le risque d'un processus de paix qui s'éternise sans résultat concret au détriment des populations de l'est du pays. C'est ce que pense Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli, un institut congolais spécialisé dans les questions des conflits et de gouvernance, dans un entretien avec Radio Mandela lundi 2 février 2026. Il redoute une dispersion des efforts diplomatiques pour des résultats qui ne seront pas satisfaisants. Henri Pacifique Mayala indique en outre que la multiplication de ces initiatives de paix non coordonnées pourrait empêcher leur convergence vers un objectif commun qui est le rétablissement effectif de la paix. Cette situation pourrait, craint-il, favoriser un statu quo sur le terrain, chaque partie gagnant du temps autour des négociations pendant que les questions sensibles liées à la sécurité et à la restauration de l'autorité de l'État restent en suspense. Henri Pacifique Mayala.
Nous avons appris que les négociations conduites sous l'égide de la République du Qatar à Doha ont repris entre la République démocratique du Congo et le M23, mais jusque-là plane l'incertitude sur à quand revient la paix. Pour les populations locales de l'Est de la République, une crainte qui persiste, c'est que tant que ces multiples initiatives de paix ne seront pas coordonnées afin de pouvoir tous converger dans un même objectif, nous craignons que de part et d'autre, on ne continue que de prendre du temps et bénéficier du statu quo qui prévaut sur le terrain. D'une part, le gouvernement reste en place à Kinshasa, qui n'est pas inquiet. D'autre part, la rébellion consolide son administration parallèle. Et pendant ce temps, ceux qui en souffrent, ce sont les fonctionnaires de l'État qui ne savent pas accéder à leur paye parce que les institutions financières ne sont pas opérationnelles. Ce sont les milliers de Congolais déplacés qui ne savent pas retourner dans leur mille. Et tout cela cristallise cette insécurité, tout cela cristallise ce manque de la paix.
Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli. Et 7 mois après la signature de l'accord de Washington, la mise en œuvre tarde à intervenir, mais certains signaux positifs sont perceptibles. Le taux global d'exécution reste néanmoins à 23,3% pour le mois de janvier 2026 et donc sans évolution par rapport au niveau enregistré en novembre et décembre 2025. C'est ce que fait savoir le baromètre des accords de paix en Afrique dans un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de Washington publié le 31 janvier dernier et consulté par Radio Mandela lundi 2 février 2026. Détail, Myriam Mufano.
Selon ce rapport, le progrès demeure limité, inégaux et en perte de dynamique. L'évaluation du mois de janvier confirme la persistance d'une phase de stagnation du processus. Cependant, fait savoir le baromètre des accords de paix en Afrique, certains éléments positifs ont été observés au cours de la période allant du 1er au 31 janvier 2026 et concernent essentiellement le cadre institutionnel et diplomatique. C'est entre autres la réunion du haut niveau qui s'éteignit à Lomé au Togo du 16 au 17 janvier avec un focus sur la cohérence et la consolidation des processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac, une rencontre qui a permis l'adoption de la nouvelle architecture de l'Union africaine. La tournée régionale du médiateur de l'Union africaine, Fornia Simbe, et du panel de facilitateurs entamée en fin janvier 2026 et les consultations élargies du président de l'Angola, João Lourenço, avec les acteurs congolais, politiques, armées s'inscrivent aussi au chapitre de points positifs, lit-on dans ses rapports. Sur cette partie des avancées louables, le baromètre fait allusion aussi au retrait total de la SAM 23 de la ville d'Ouvira, descendu du 7 janvier 2026. En revanche, le baromètre des accords de paix en Afrique constate certains défis qui empêchent l'effectivité de la mise en œuvre totale de l'accord de Washington. Ces défis sont l'intensification des hostilités, la non-neutralisation des FDLR, la non-levée de mesures défensives du Rwanda, ainsi que des entraves continues empêchant l'accès effectif de l'aide humanitaire aux populations civiles. Eu égard à ce qui précède, cette structure formule une série de recommandations aux parties prenantes et aux médiateurs. Aux États-Unis, le baromètre demande d'exercer une pression sur le parti, au Qatar, d'encourager la relance du processus de paix de Doha entre la République démocratique du Congo et la FSAM 23 et au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Rwanda d'honorer leur engagement pris dans l'accord.
Retour à Bukavu, des effets militaires, des faux billets ainsi que du chanvre ont été saisis à l'occasion d'un couvre-feu organisé lundi 2 février 2026 sur avenue Bouriba au quartier Tchikoni dans la commune de Bagira. À la même occasion, plusieurs personnes ont également été interpellées pour différents motifs. Selon le bourgmestre de Bagira, Soumou Socrate, ces opérations font suite à des alertes persistantes liées à l'insécurité dans le quartier Tchikoni. Les fouilles menées ont permis de découvrir des effets militaires au camp juif moqués dans des familles dont les responsables étaient des militaires fardissés et policiers au sein de la PNC, indique Soumbou Socrate. Il en est de même du chanvre vendu par certaines femmes dans leur maison et des cachettes des personnes qui produisent des faux billets. Par ailleurs, des personnes présumées à l'origine des cas d'incendie au quartier Chikera et Moulamboula ont été arrêtées, indique le bourgmestre de Bagira, qui appelle également la population à continuer la collaboration avec les services de sécurité.
Après plusieurs effets militaires dans le camp Jules Moquet, les femmes, le familier des ex-policiers, ex-soldats, des FARDC de la PNC avaient laissé des ninèves, des baïonnettes, des ceintures, des bottines, des bérets et autres effets militaires. On est parvenu vraiment à mettre la main sur ce genre. Certains avaient nécessité de bénéficier de conseils. À part cela, il y avait eu les contrefacteurs qui piratent devises, monnaie étrangère, dollars, pounds et autres. On a appris aussi les vendeuses de chanvre. À certaines, on a prodigué des conseils et à d'autres personnes, il a fallu qu'on les amène à la police et les soumettre à un interrogatoire. Aussi, on a pris les gens qui sont à l'origine des incendies à Chikera, à Moulamboula.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent. Plus de deux semaines après la coupure du réseau mobile à Internet dans plusieurs coins du Sud Kivu, les abonnés des réseaux de télécommunications continuent de vivre le calvaire. Il est difficile d'accéder à Internet ou de communiquer simplement par message ou appel. Face à cette situation, des voix s'élèvent encore pour demander aux maisons de télécommunications et aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur de parer au plus pressé pour rétablir la situation. Pour le président honoraire de la jeunesse d'Irambi Katana, Eric Issa Ngani Georges, priver les milieux ruraux de la connexion, c'est consacrer une souffrance de plus pour ces populations qui font face aux conséquences incalculables de la guerre. Eric Kisangani.
Je lance un cri d'alerte et un plaidoyer à toutes les autorités compétentes pour le rétablissement de la connexion téléphonique et de la connexion Internet, voire les messages normaux dans les territoires de Kabare. La population de Kabare est déjà meurtrie par la guerre à l'Est et aujourd'hui coupée du reste du monde par la connexion Internet, voire même les messages normaux. Et c'est là déjà plus de deux semaines que la population est en pleine souffrance par manque de la connexion. Les habitants de Kabare sont contraints de marcher des kilomètres pour trouver une connexion au péril de leur sécurité. Je plaide pour que la connexion soit rétablie dans l'urgence, afin de permettre à cette population de communiquer avec leurs familles partout au monde.
Infrastructure à présent, le pont Bouganga, situé dans le groupement de Bouzi en territoire de Calais, sur la route nationale numéro 2 qui relie la ville de Bukavu à celle de Goma, est menacé d'effondrement après les récentes pluies qui se sont abattues dans cette partie du sud Kivu. L'alerte est lancée par l'organisation Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une structure de la société civile œuvrant en territoire de Calais. Le chef d'antenne de cette structure, Sadiq Juge, fait savoir que les pluies enregistrées les deux dernières semaines ont territoire de Calais ont sérieusement dégradé les murs qui soutiennent ce pont jeté sur la rivière Mubimbi. Au-delà des intempéries, l'exploitation à grande échelle du sable sur le lit de cette rivière dégrade davantage la fondation de ce pont, ajoute Sadiki Juge. Il fait savoir que cette rivière produit du sable utilisé localement pour la construction des maisons et pour une commercialisation vers la ville de Goma. Au vu de son importance pour la connectivité entre la cité de Minova et le village de Kalungu et par ricochet la ville de Bukavu à celle de Goma sur la route nationale numéro 2, Sadiki Juge plaide pour sa réhabilitation dans les meilleurs délais. Il est gentil au téléphone.
Un pont d'importance capitale reliant les villages de Kalungu, les villages de Minova, aussi les villages Kishinji, les groupements Bouzi, groupement Mofunishanga passe par Bishange, mais aussi c'est un pont d'importance capitale car se situe ici la route nationale numéro 2 ou les Goma vers Kalungu et vers Bukavu, donc Goma-Bukavu. Raison pour laquelle nous appelons à l'intervention des partenaires du gouvernement congolais, aux hommes de bonne foi, mais aussi à tous ceux-là qui savent que la route c'est un moyen de sécurité de circulation routière.
Signalons que ce pont avait été construit dans la période allant de 2006 à 2007 par une entreprise chinoise dans le cadre du projet ProRoute financé par la Banque mondiale. Et la société civile de la commune d'Ibanda dénonce une tentative de spoliation du site mémorial de la femme situé dans le quartier Nyalukemba en face du marché de Ngouba, un lieu symbolique et historique pour la promotion et la mémoire des droits de la femme dans la province du Sud Kivu. C'est ce qu'on peut lire dans une note d'alerte adressée au bourgmestre de la commune d'Ibanda avec copie parvenue à Radio Mandela lundi 2 février 2026. Selon Murula Machumbiko, président de l'Institut civil d'Ibanda, un groupe de personnes non identifiées se présenterait avec des faux documents fonciers appuyés par certains avocats dans le but de tromper la vigilance des autorités et de s'approprier légalement ce site. Il estime que la protection de ce patrimoine relève de la responsabilité collective et que personne n'a le droit de le vendre ni de l'acheter au regard de son importance historique et sociale. Murula Machumbiko appelle les autorités provinciales et judiciaires à prendre des mesures urgentes pour sécuriser ce site mémorial et d'interpeller les présumés spoliateurs afin qu'ils répondent de leurs actes conformément à la loi. Il s'exprime dans cet élément sonore.
Nous lançons un message fort à la population que le site vos crimes n'est pas à vendre. Le site mémorial de la femme n'est pas à vendre. Nous devons protéger ce site. Mais nous tenons à signaler que si pour lier ce site, c'est pétiner la valeur de la femme, c'est effacer notre histoire. Et nous, comme société civile, les activistes des droits humains, nous devons protéger ce patrimoine et nous devons protéger ce site qui parle de la souffrance de la femme. Nous pensons que les autorités en place sont dans l'obligation, selon leurs attributions, de protéger ce site mémorial. Mais nous pensons qu'avec l'intervention de l'autorité provinciale, des maires de la ville, des bourgmestres, des chefs de quartier, des responsables militaires et des lanneurs, nous pensons que ce site sera protégé. C'est ainsi que nous encourageons les autorités à appréhender ces spoliateurs avec leurs faux documents pour qu'ils puissent être attendus et répondre de leurs actes.
La revue de presse, Radio Mandela capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'annonce par le chef de l'État de la tenue prochaine d'un dialogue politique national fait la une des journaux et médias en ligne lundi 2 février 2026. Hélène Boudjiriri pour la revue de presse.
Face aux défis sécuritaires persistants et aux tensions politiques internes, le président Félix Tshisekedi a annoncé le 31 janvier les conditions de la tenue prochaine d'un dialogue national, rapporté Congo Nouveau. Cette déclaration, faite devant les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, relance les débats sur la cohésion nationale et l'avenir politique du pays selon ses trihebdomadaires. Le dialogue voulu par Kinshasa ne sera pas tenu à l'étranger, ce qui exclut d'office la participation physique de Joseph Kabila exilé depuis fin 2023, estime ce journal. Loin du questionnement soulevé par Congo Nouveau, le quotidien précise que Tshisekedi a annoncé un dialogue qui sera apaisé, inclusif, résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel et de poursuivre un dialogue qui devra se tenir à un RDC conduit et organisé par les institutions de la République. Cependant, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer des responsabilités établies. Africa News affirme que le message demeure clair. Si un dialogue national est convoqué, il sera soumis à des garde-fous et à des exigences de reddition des comptes, notamment en matière de respect du cadre juridique et de la lutte contre l'impunité. Ce tabloïd rapporte que le chef de l'État a déclaré que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des États ne sont pas des principes à géométrie variable. Elles constituent les socles d'un ordre international juste et la condition même d'une paix durable. La CP, pour sa part, rappelle qu'au cours de cet échange avec les corps diplomatiques, Félix Tshisekedi a également préconisé l'articulation cohérente et complémentaire des initiatives et mécanismes de paix pour la région des Grands Lacs afin d'assurer une stabilisation régionale durable. Dans un autre chapitre, Enfo 27 fait savoir qu'un nouveau jalon diplomatique et économique s'ouvre pour Kinshasa. Après 2 années de tractations discrètes, la République démocratique du Congo s'apprête à conclure un accord de coopération économique globale avec les Émirats arabes unis selon ses quotidiens. Mines, commerce, transport, investissement structurant, les textes promettent d'élargir l'accès au marché et d'attirer des capitaux dans des secteurs clés d'une économie en quête de diversification. La signature prévue au palais présidentiel réunira le président émirati et son homologue congolais, écrit ses médias. Il affirme que pour Kinshasa, il s'agit de consolider un partenariat présenté comme gagnant-gagnant et d'ancrer la RDC dans des nouveaux circuits d'échange internationaux.
Par ici prend fin ce radio journal. Anissé Akonko a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédite Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Mandela. Au revoir.